Les femmes exceptionnelles, elles sont autour de la table, mais aussi elles sont au cœur de la rubrique spéciale d'Alberto qui s'appelle Alberto.
Il était une femme.
Il était une femme. Et cette semaine, Alberto, vous allez nous présenter Nelly Bly. On vous écoute.
Alors, Elizabeth Jane Cochran est née, la future Nelly Bly, est née en 1864 en Pennsylvanie. Orpheline, toute jeune, destinée à devenir gouvernante, elle refuse cette orientation, montrant déjà un talent littéraire certain. À 16 ans, indignée par un article misogyne du Pittsburgh Dispatch, elle adresse au journal une lettre virulente signée « L'orpheline solitaire ». Au rédac-chef, qui cherche à tout prix à la rencontrer, elle lance un défi. Si elle lui propose un article qu'il jugera excellent, il devra l'engager. Et bien bientôt, c'est chose faite grâce à un papier sur le divorce. Elle prend alors le pseudo de Nelly Bly, tiré d'une chanson très populaire à l'époque. Malgré les pressions du patronat, elle refuse de se cantonner aux rubriques théâtrales et artistiques et se fait embaucher dans une tréfilerie, c'est une fabrique de fils de fer, immense usine, et son reportage peut être considéré comme le premier exemple du journalisme d'investigation. En 1886, elle part pour le Mexique et envoie des chroniques qui démontrent les préjugés que les Américains colportent sur les Mexicains. Néanmoins, elle se fait expulser pour pas avoir épargné des dirigeants corrompus. En 1887, Joseph Pulitzer, directeur du New York World, lui lance à son tour un défi. Il l'engagera si elle réussit à s'infiltrer dans un asile d'aliénés, le Blackwell's Island Hospital, et Nelly Bly simule la folie et réussit à se faire interner. Révélant les conditions inhumaines dans lesquelles croupissent les patientes de cet asile, son reportage suscitera un énorme scandale et la ville de New York sera obligée de réformer drastiquement ses hôpitaux psychiatriques. Dans la foulée, Nelly Bly prend d'énormes risques en infiltrant sous un déguisement l'entourage du célèbre narcotrafiquant Edward Phelps. Alors, elle a l'idée, dans la foulée, peut-être pour échapper à la mafia, de faire le tour du monde pour battre Phileas Fogg, le héros du tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Le financier du New York World refuse de la soutenir, arguant qu'une femme est absolument incapable d'accomplir un tel exploit. Qu'à cela ne tienne, le 14 novembre 1889, Nelly Bly prend le départ à Jersey City. En France, à Amiens, elle est chaleureusement accueillie, très rapidement, par Jules Verne, qui la trouve très jolie. Et elle repart aussitôt. Brindisi, Suez, Colombo, Singapour, Yokohama. Elle relate son voyage dans des articles qui connaissent un succès considérable aux États-Unis. À Hong Kong, elle apprend qu'une autre journaliste, Elizabeth Byland, a été chargée de la battre. Aux USA, les bookmakers prennent les paris. Quand Nelly débarque à San Francisco, Pulitzer affrète des trains qui traversent les USA à toute vapeur et la jeune femme arrive en gare de Jersey City le 25 janvier 1890 après un périple de 40 070 km bouclé en 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes. Record battu. Le jour même, Jules Verne écrit « Jamais douté du succès de Nelly Bly, son intrépidité le laissait prévoir. Hurrah, hurrah pour elle et pour le directeur du World ». À ce moment-là, les reporters cascadeuses, stunt girls, deviennent à la mode. Ainsi, une journaliste teste les traitements médicaux prescrits aux femmes indigentes, une autre se fait l'assistante d'un dompteur de lion, une autre encore munie d'un gilet pare-balles sert de cible vivante à des tireurs à Winchester. Mais pour Nelly Bly, après tant d'aventures, le retour à la réalité est très difficile. Elle tâte de la drogue et de l'alcool. Mais en 1895, elle épouse un industriel millionnaire rencontré dans un train et s'éloigne du journalisme. Après la mort de son mari, elle prend la direction d'un énorme complexe industriel et brevette 25 objets de son invention, dont un bidon d'essence, un pot à lait et une poubelle empilable. Fallait quand même le trouver. Elle procède surtout à des réformes sociales très favorables aux ouvriers. Mais victime d'un comptable escroc, elle est ruinée. Elle part alors pour l'Angleterre. Pendant la Première Guerre, elle devient correspondante de guerre bénévole. De retour à New York en 1918, elle reprend ses articles sur le monde ouvrier, l'enfance malheureuse et milite très activement pour le droit de vote des femmes. Elle meurt en 1922 à 57 ans. Aujourd'hui, le New York Press Club décerne régulièrement le prix Nelly Bly aux meilleurs travaux produits par des jeunes journalistes. Total respect pour Nelly Bly.